Ben, merci Président, et merci à vous d'être venu m'écouter. Ça va être un peu différent de ce que vous avez l'habitude de ce que je raconte, en fait, même si je vais raconter un peu. Puisque depuis quelques années, je me suis dit, raconter c'est bien, puisque je raconte à peu près 270 histoires différentes, donc c'est une grande passion. Mais il faut aller plus loin, Et en allant plus loin, il faut aller chercher, pour mieux comprendre, il faut chercher. Et puis, les Suisses, que j'aime bien, parce que j'y vais souvent, un jour m'ont dit, il faudrait que tu nous travailles le problème des loups-garous. Pourquoi? Et voilà, donc, j'ai commencé ce travail sur les loups-garous, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En particulier, par rapport aux contes et légendes qu'on a dans notre belle vallée de la Maurienne. Alors, les loups-garous. La croyance concernant la transformation d'un individu en un être sauvage est omniprésente dans les littératures orales du monde entier. Si la lycanthropie désigne la croyance selon laquelle la métamorphose d'un homme en loup serait possible, elle désigne également un trouble mental durant lequel l'individu a la conviction délirante d'être changé en loup. Ce dernier item ne sera pas développé dans cet exposé. L'élément mystérieux de ce zoomorphisme, la transformation d'un être humain en animal, est que, grâce à la métamorphose, l'individu a la possibilité d'acquérir les caractéristiques des êtres de la nature auprès desquels il se trouvait à égalité avant cette première phase dite de non-humanité. Mais il doit aussi réussir, par l'intermédiaire de pouvoirs surnaturels, à être réintroduit à l'intérieur de la communauté humaine. Dans cet exposé, je me propose d'analyser les contes et légendes collectés par mes soins relatifs à la transformation d'hommes en animaux, que j'ai principalement collecté dans cette langue franco-provençale, le franco-provençal qui est le terme précis, mais je préfère le mot générique arpitan, qui lui désigne vraiment le patois de nos montagnes. Arpitan, qui est un mot qui a été inventé par les Valdotins dans les années 1970. Alors revenons au sujet, l'objet étant d'observer les liens qui se développent entre le monde rural socialisé et celui de la nature montagnarde sauvage. Alors la métamorphose, les croyances concernant les loups-garous, ces êtres humains métamorphosés en loups, se rapprochent beaucoup des croyances qui font référence à une catégorie particulière de personnes qui se transforment en animaux et d'en prendre des caractéristiques grâce à des sortilèges magiques mis en œuvre par des sorciers et des sorcières. Il est très difficile de retrouver l'ère d'origine et de diffusion successive de ces récits de croyances. Comme le souligne bien l'ethnologue folkloriste français Arnold von Genève, je vous l'ai guillemets, la croyance au loup-garou ne paraît point avoir d'origine spéciale chez tel ou tel peuple à telle ou telle époque. On la rencontre aux temps les plus reculés de l'histoire, on la voit se perpétuer avec des formes plus ou moins diverses chez presque toutes les nations européennes. C'est une des idées communes, presque instinctives, qui saisissent les hommes partout où ils se trouvent et qui vivent avec eux. Fermez les guillemets. Les croyances concernant les animaux garous sont donc naturellement ancrées dans le capital oral immatériel. C'est une base fondamentale. Dans un premier temps, il est nécessaire de définir le terme de littérature orale, qui regroupe un vaste champ de récits, de fictions anonymes, transmis oralement à travers les générations. Mythes, épopées, légendes, fables et contes, et peu à peu retranscrit dans les livres. Aujourd'hui, ce patrimoine est au carrefour de l'immatériel et du matériel. Immatériel à son origine, il a su traverser les temps. Matériel, l'écrit fige les récits. Mais il est, le temps d'une veillée, vivant dans la bouche de celui ou celle qui les raconte, car le conteur utilise des images. Une histoire lue n'est que la mise en parole d'un texte, la même histoire racontée est faite de mots qui, spontanément, décrivent des images. Dans cet exposé, toutes les histoires seront donc racontées, seule la partie technique, explicative, sera lue. L'animal garou des narrations orales collectées dans les vallées alpines est un humain qui a été métamorphosé ou qui s'est métamorphosé par une action de type magique. Il s'agit donc d'un être ambigu qui peut se manifester indifféremment dans son aspect humain ou dans celui d'animal sauvage, voire d'animal domestique. Comme dans l'histoire que j'ai collectée auprès d'Yvette Girard à Bellevue en 1995. Et l'histoire raconte que c'était la tradition que les gars du village, un soir par semaine, et souvent bien le samedi, se réunissaient devant le four, et puis après ils partaient par petits groupes, l'été, dans les Alpes. Pour aller à la tchap, on a putain, ça veut dire aller courir les filles. Voilà. C'est là où qu'elles étaient, les jeunes bergers. Ils y passaient la nuit et puis ils rentraient souvent que très tôt au petit matin. Et c'est l'histoire de trois d'entre eux qui reviennent au village. Il est pas encore le jour. Mais ils arrivent à l'entrée du village de la Bière quand, dans un pré à la rue, ils y découvrent une vache. Une vache qui traîne une longue longe derrière elle. Alors, en bon paysan, ils la reconnaissent, cette vache, c'est la vache de François de Caton. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, toute seule ? Oh, François de Caton, c'est un bon lieu, tout le monde le connaît. Alors, ils ont dit, elle a dû s'échapper, on va la ramener à l'écurie, ça l'avancera pour le lendemain. Et les voilà partis courir après cette vache. Mais la vache s'enfuit un peu plus loin. Et à chaque fois qu'ils s'en approchent, quand il y en a un qui arrive à tenir la corde, la vache le regarde et d'un bond d'avant s'enfuit et la corde lui s'accroche. Alors, au bout de quelques fois, c'est comme pour eux un jeu. Hein ? Il y en a même un qui s'entoure la corde autour du bras et la vache le regarde, bondit et la corde file. Et il continue comme ça quand ils arrivent vers le bois de la femelle. Que dans un dernier coup, il y en a encore un qui s'accroche plus fort que les autres, mais la vache le regarde, bondit et se jette dans cette espèce de petit bois d'affaires. Et là, ils entendent un grand bruit, une explosion, un grand feu avec des flammes bleues, vertes, de toutes les couleurs. Une vache. Ils sont terrifiés, ils rentrent au village en courant. Cette histoire de vache, ça les a tourmentés. Ils attendront le réveil des anciens pour raconter leur histoire. Personne n'a pas pu bien comprendre. Ils sont retournés jusqu'à ce petit endroit du bois de la femelle. Il y avait bien les traces d'un grand feu, mais ils n'ont jamais retrouvé la vache. Et cette histoire s'est racontée. Et on disait que c'était de la physique. En arpitant la physique, c'est de la magie. Et que quelqu'un leur avait fait un tour de magie. L'histoire s'arrête là, telle qu'elle m'a été racontée. Alors nous entrevoyons ici la nature ambivalente de l'animal garou et des effets de la magie. La physique pratiquée par les sorciers et les sorcières. En effet, l'animal homme forme un être mystérieux qui développe des comportements particuliers suivant la nature de l'animal dont il prend le dessus. La nature de la vache, symbole de terre nourricière, de richesse, de chaleur, est dans ce récit un élément fort. La civilisation de la vache, des alpages, des fromages, est encore de nos jours une réalité. Cette vache, pas aussi facile que ça finalement, comme objet de tentation, c'est un pas facile et moins rebutant qu'un animal sauvage. Dans ce récit, on n'entrevoit pas vraiment la finalité de cette métamorphose, si ce n'est qu'un rappel à l'ordre social pour inviter les protagonistes à ne pas s'égarer en dehors du déroulement des travaux des champs qui s'égrènent au fil des saisons. C'est simplement un rappel à la valeur du travail. Et puis il y a cette explosion, ce feu qui efface mais qui laisse des traces. Dans cette première approche, il est temps d'analyser méticuleusement les différents moyens parmi lesquels certains individus peuvent se transformer en animal. Alors, premier exemple, c'est un récit que j'ai collecté auprès de Géo Grand, 1979 à Montrond, mais que l'on retrouve aussi dans le collectage de Charles Justan à Montrond en 1961, qu'il a intitulé « Brûler la peau du loup-garou » et qui a été publié en 1995 dans « Être fantastique des Alpes ». Alors on va rester dans les alpages, et on va plutôt aller dans ces belles montagnes des Aiguilles d'Arve avec un chasseur. Chasseur de chamois, hein, qui était plus braconnier que chasseur, qui attendait les jours de mauvais temps, les jours de brouillard, pour monter là-haut, tendre des pièges pour attraper quelques chamois et ainsi améliorer l'ordinaire. Mais ce jour-là, trop de brouillard, trop de neige, et pas de chamois. Hein, puisque les chamois, comme toutes les autres bêtes sauvages, ont cette habitude de passer toujours au même endroit, ce qu'on appelle une trace, un passage. Alors, au lieu de retourner au village, il va aller passer la nuit dans un petit chalet d'alpage. Le chalet d'alpage était bien souvent utilisé aussi comme refuge. Il arrive dedans, il fait froid, humide. Ces senteurs de ces chalets qui ne sont pas habités, il en fait le tour, pose son sac à dos, son fusil, lorsqu'il entend du bruit. Les gendarmes. J'ai été vendu. Il n'y a que ça, quelqu'un m'a vendu. La peur du garde, la peur du gendarme, il va aller cacher le fusil dans un coin, cacher son sac à dos dans un autre coin, et lui-même se faire plus petit dans un autre coin. Et le bruit se fait plus fort, il tremble de peur. La porte s'ouvre en passant et rentre dans le chalet un ours. Un ours énorme. Il s'attendait à tout. Du képi, mais pas un ours, et une fusée qui est cachée dans l'autre coin. L'ours rentre dans la pièce, se dresse sur ses deux pattes arrière, dans un berlin brame puissant, prend ses deux pattes pleines de griffes, se les plonge dans le poitrail et se déchire la peau. Il tremble de peur. Et dans un chien encore plus monumental, l'ours enlève sa peau. Et là, il découvre que sur cette peau d'ours, il y a une jeune femme qui pose sa peau d'ours sur la table. Elle devait être coutumière des lieux. Elle s'approche du feu et avec un fagot de brindis de mélèze, elle allume un bon feu avec des belles flammes. Et ces flammes viennent éclairer la pièce. Il la reconnaît, cette femme. C'est une femme du village d'à côté, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la peau d'un ours? Si lui, il est là derrière la porte, terrorisé, incapable de bouger, elle s'est aperçue de rien. Elle va trouver sur le manteau de la cheminée un bout de peigne et un morceau de miroir. Et quand on sort de la peau d'un ours, il y a un peu du travail. Elle s'est fait belle. Alors, voyant tout ça, il se déplie pour lui faire un brin de Cosette. Mais quand elle le voit, elle rentre dans une colère monumentale. Elle jette le miroir d'un côté, le peigne de l'autre, se précipite sur le bonhomme en hurlant, en criant, en le griffant, en le giflant. Lui, il ne sait plus quoi faire. Une véritable tourmente, une tornade, un démon. Pour s'en défaire, il la prend, il la serre dans ses bras. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Elle gigotait encore plus fort. Dans la bagarre, je ne sais pas lequel des deux, mais il y en a un qui va faire tomber la peau et elle va finir dans le feu. Et la peau va se mettre à brûler avec des petites flammes bleues. Une épaisse fumée noire qui n'arrivait pas à être avalée par le conduit de la cheminée, une peau d'ours qui brûle avec une odeur à vomir, et un démon qui le griffe, qui le gifle. Il ne savait plus où il en était. Mais quand la peau a été entièrement brûlée, alors elle s'est arrêtée. Elle a regardé de ses grands yeux et avec le plus joli de ses sourires, lui a dit « Merci ». « Merci ?» Quand ça fait plus d'une heure que tu te fais taper dessus. Merci, parce qu'en brûlant cette peau, plus jamais je serai une ours. Et c'est lui à lui raconter son histoire. Elle avait juste 13 ans, un jour, sa voisine lui dit, Petite, tu veux devenir la plus jolie femme de la terre ? Elle a dit oui. Ah ben, tu vas voir ce qu'il y a dans cette petite fiole. C'était un peu verdâtre, opaque, ça c'était pas très bon, mais pour devenir la plus belle, on est prêt à beaucoup de choses. Elle a tout bu. Mais ce que sa voisine n'avait pas dit, ou plutôt sa sorcière de voisine, c'est que les nuits de pleine lune, quand la lune est toute ronde là, alors sa peau se mettait à lui brûler. Elle ne pouvait pas rester au village. Elle courait dans la forêt et sous un rocher, des terrains de peau d'ours l'enfilaient pour devenir une ours. Merci. Parce qu'en brûlant cette peau, plus jamais je serai une ours. Et la légende raconte qu'ils ne sont redescendus au village qu'au lendemain matin et qu'au printemps, ils se sont mariés. Alors l'animal Garou suit donc les lois de la nature. En courant la montagne, voyageant, mangeant comme une bête sauvage, dans sa forme humaine, il se comporte comme tous les autres êtres humains. L'ours est considéré communément comme l'ancêtre de l'espèce humaine, avec ce mythe très répandu des femmes enlevées par des ours et vivant conjointement avec leur ravisseur. Tout le monde en mémoire le conte de Jean de Gaulle. Ici, le fait de revêtir la peau d'un ours signifie en même temps recevoir les avantages qu'elle apporte, mais aussi en subir les effets négatifs qui agissent sur la nature humaine de l'individu qui en est revêtu. Le seul contact avec la peau, appartenant au monde sauvage, emmène l'individu à être saisi par une force sauvage, de sorte que la possession de la peau en arrive à modifier la personnalité même de l'individu qui n'a plus le contrôle de soi et devient ainsi un être sauvage, dominé parfois par une rage incontrôlée. Nous sommes donc dans la première catégorie dite de l'animal garou victime, qui subit les caractères de l'animal sauvage dont il a revêtu la peau. Animal garou qui, dans ce récit, se limite à subir de manière passive l'instinct de l'ours sauvage, dans lequel la jeune femme s'est métamorphosée. Alors je vous propose d'aller un peu plus loin, un peu plus en avant, avec une légende qui était issue de mon collectage, toujours par Yvette Girard, qui était entre autres ma belle-mère, mais qui tenait ce récit de Charles Constantin, dit Charles de Grandquille. Donc on revient avec ces chasseurs de chamois. La vie était très dure dans nos montagnes, c'est dans des époques pas si aussi reculées que ça. Et que pour améliorer l'ordinaire, eh bien, on mélangeait volontiers de la viande de chamois avec celle du cochon, ce qui permettait de faire la soudure avec le printemps. Et c'est l'histoire d'un chasseur de chamois d'Hérieux qui s'en va à la chasse le dimanche. Dimanche, qui normalement est réservé au jour du Seigneur, et à l'époque, il était interdit de travailler dimanche. Mais lui, il s'en va à la chasse contre toutes les règles en vigueur. Toute la matinée, il va courir les forêts, chercher du gibier, et ce n'est que derrière le cré de la Cochette, dans cette forêt des Georgians, qu'il va découvrir trace d'un chamois qui s'en approche. Il est à moins de 100 pas. Sort sa carabine, épaule vise, tire. Un coup de feu retentit, repris par tous les échos de la montagne. Le chamois tombe, mortellement tué, la balle a touché le cœur. Il est content. Ça fera un peu plus. Alors, comme il est bien loin de chez lui, il va s'approcher, sortir son couteau au pinet, éventrer la bête, lui vider les entrailles, charger la bête sur ses épaules pour rentrer. Et pour rentrer, il va passer par le village qu'on appelle le village du Plan. Et en passant derrière l'église, on est en début d'après-midi, il rencontre monsieur le curé qui se promène. Monsieur le curé commence par un sermon moralisateur, lui disant que ce n'est pas un jour pour la chasse, c'est un jour pour la messe, c'est un jour de repos. L'autre homme s'explique en disant qu'il a de nombreux enfants, et que d'améliorer un peu, ça sera mieux pour aller jusqu'au printemps. Et le curé continue, À la fin, le gars l'envoie balader, ce bon curé, et remonte pour passer le col. Et quand il arrive à la première croix, la croix du Fao, il voit un chamois qui gambade autour de la croix. Oh, c'est bon jour de chance, qu'il se dit, deux chamois, c'est mieux qu'un. Alors, il pose son sac à dos, pose son chamois, prend son fusil, et quand il arrive pour tuer, le chamois disparaît. Il recharge tout son attirail, remonte droit dans le pentu pour aller vers la croix du Mintan, la croix du milieu. De nouveau, un chamois gambade, de nouveau, il pose son sac à dos, pose son chamois, prend sa carabine, va pour tirer. Le chamois disparaît. Dans cette histoire de courir après des chamois qui disparaissent, ça le fatigue plus que d'habitude. Il ne comprend pas bien pourquoi. Il remet le sac à dos, reprend le chamois, repart, et quand il arrive à la croix du col, de nouveau, un chamois gambade autour de la croix. Ben celui-là, je ne veux pas le laisser passer. Alors, dans un dernier effort, il pose le sac, pose le chamois. Se plante là à côté d'un vieux plâne, l'épaule, et le chamois disparaît. Alors, il est pris d'une grande fatigue. Péniblement, il recharge son sac à dos, recharge son chamois, passe le col. Et quand il est sur la descente, il est en plein village de Mollard, épuisé, et il tombe là, par terre. Alors, qui regardait, qui attendait là, vers le four, va pour le relever, il discute, lui donne à boire. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et d'autres chasseurs lui racontent l'histoire, cette rencontre avec ces chamois qui tournaient autour des croix. Le gars réfléchit, lui dit, c'est le curé qui t'a fait de la physique. T'as pas voulu partager avec le curé non plus. Tu vas à la chasse et tu partages pas. Il s'est vengé. Alors, nous découvrons ici le portrait d'un personnage clé de nos villages, de nos villages de montagne, le curé. Curé qui décide volontairement de se transformer en chamois, réussissant à contrôler la nature sauvage de cet animal, et qui entre, lui, dans la catégorie des animaux garous volontaires, qui, dans cette histoire, a un caractère malfaisant. La transformation volontaire du curé, celui qui avait le pouvoir sur sa paroisse, tant temporelle que spirituelle, celui qui a la connaissance de la physique, de la magie noire, par ses facultés intellectuelles, mais aussi de ses facilités à accéder à une culture écrite en latin, qui était réservée à l'époque à une élite. Le curé, dans toute sa puissance, sur les trois mondes divin, psychique, physique, personnage incontournable dans les communautés alpestres de cette époque, où dans cette histoire ressort toute la méfiance des gens de la terre vis-à-vis des pleins pouvoirs du clergé. Petit focus sur la physique, la magie noire, on la trouve notamment dans des livres secrets, Le Grand et le Petit Albert, Les Clavicules de Salomon, voire Les Évangiles des Quenouilles. Ces ouvrages qui, jusqu'au début du XXe siècle, étaient interdits. Ce sont de grands recueils où toutes les formules les plus horribles sortilèges y sont méticuleusement recensées. Il y en a de toutes sortes, avec des plantes, des crapauds, sans oublier des petites souris, des serpents, des œufs, des araignées, des vers et bien d'autres ingrédients. Des formules qui en sorcellent, qui envoûtent, qui rendent malades, qui font mourir, mais aussi les antidotes qui guérissent, qui rendent invulnérables, et aussi celles qui libèrent. Autre récit pour mieux illustrer ce loup-garou victime et ce loup-garou qui maîtrise sa condition est celui de la peau du loup qui m'a été raconté par Gilbert Gouraud, c'était en 2003 à Villejeune, mais qu'on retrouve dans le collectage de Charles Joystan. Il a collecté ça en 1965 dans une autre vallée un peu plus au nord, à Mégevette, en Haute-Savoie. Alors c'est l'histoire des cheminots, EAU, les cheminots, c'est ceux qui couraient les chemins, c'est pas ceux qui conduisent les trains. Les cheminots, c'était, on appellerait ça des indigents, des vagabonds, moi j'en ai connu quand j'étais petit, c'était des gens qui vivaient sur les chemins et qui arrivaient dans une ferme où ils étaient accueillis et ils payaient le coucher et le repas par des petits travaux, ils réparaient les paniers, ils faisaient tout un tas de bricoles, puis quand ils avaient fini, ils repartaient ailleurs. C'était comme ça. Le RSA n'existait pas. Et ça marchait très bien. C'est l'histoire d'un cheminot à Carlon, et un matin, il était l'heure de boire le café, que le cheminot n'était pas levé. Alors, le père a envoyé son jeune garçon chercher le cheminot qui dormait dans la grange en dessus de la bergerie. Mais le gars court, ouvre la porte. Le cheminot ronfle. Un ronflement si puissant qu'il en fait trembler la charpente de la grange. Alors il s'approche pour le réveiller. Mais son œil est accroché par quelque chose, le sac. Le sac du cheminot. Il en déborde une peau, une fourrure. Elle est belle. Alors, il est attiré par cette fourrure. Il la caresse doucement. Et l'autre ronfle à qui mieux. Il s'enhardit un peu à sortir la peau. Il la déplie, c'est une peau. On dirait une peau de loup. Ah, oh, ça me ferait un joli manteau. Il a mis la peau sur ses épaules. Ah, elle est chaude, cette peau. Quand je ne vais pas la lui rendre, je vais la garder. Et pendant que l'autre ronflait, il était là tranquillement dans sa peau. Mais quand il va pour la poser, ce n'est plus des mains qu'il a, c'est des pattes. Ce n'est plus le visage qu'il a, c'est un museau. Il est devenu un loup. Un jeune loup. Mais je suis un loup. Comment faire ? Je ne peux pas rester. On va me tirer dessus. À moi la liberté. Alors il s'enfuit par la porte, court comme un jeune loup de droite et de gauche. À Carlon, quand ils ont vu sortir un loup de vers la bergerie, ils ont crié : il y a un loup qui a mangé nos moutons ! Vite, il y en a un qui est allé courir à la chambre, a pris un fusil, a balancé un coup de feu. Et cette détonation a réveillé le cheminot. Le cheminot a tout de suite compris. Le sac était vide. Alors, il s'est mis à courir, arrête à poire, il s'est mis à crier. C'est votre fils qui est devenu un loup. Faut pas que je perde de temps, faut que je le retrouve. Il est parti, a pris sa trace, un jour durant, a tendu des pièges pour le capturer. Le jeune loup pris au piège se débattait là. Alors il s'est précipité dessus, l'a terrassé au sol et l'a mordu au cou, à la jugulaire, pour faire pleurer le jeune loup. Et le jeune loup s'est mis à pleurer. Et pleurer, pleurer encore, jusqu'à ce que la peau lui tombe et qu'il redevienne un jeune garçon. Il a récupéré soigneusement sa peau, a fait une bonne morale au jeune garçon, comme quoi il n'allait jamais chercher ce qui se passe dans le sac d'un cheminot. Il va ramener le jeune garçon à ses parents, on va lui payer un bon casse-croûte, il repartira. Mais plus jamais personne ne le reverra. Alors on peut diviser cette histoire en deux parties. La première, où l'enfant curieux et innocent par nature regarde dans le sac du cheminot et y trouve une peau de loup, qui, après s'en être vêtu, est saisie par la magie contenue dans la peau, pour devenir un loup-garou, ne réussissant plus à sortir de cette condition d'animal-garou victime. La personnalité de l'enfant change. Il se transforme en un être sauvage, abandonnant sa condition d'être humain social. Il s'enfuit du joug familial, du monde sociabilisé du village, pour rejoindre le monde sauvage des bois et des alpages de la montagne. Cependant, il n'était encore pas trop éloigné, il s'était encore pas trop habitué, ce qui signifie qu'il n'a pas eu encore la possibilité et le temps de goûter à ce monde sauvage et à la nature du loup dominé par ses instincts de bête sauvage. Il vient d'abandonner sa condition d'être humain, ainsi que le système social fait de droits, de devoirs propres aux communautés humaines. Cette malheureuse situation a débuté par une rupture des règles en usage dans le monde des hommes, celle qui interdit d'utiliser des objets appartenant à d'autres personnes sans leur consentement. Cette transgression a donc causé sa transformation en loup-garou. Nous sommes bien là dans la forme du conte, avec cette morale qui vient conclure le récit par le rappel à l'ordre, à la norme sociale. La deuxième partie de l'histoire marque l'intervention du cheminot, ce vagabond qui vit en dehors du cadre social dit normal, cheminot propriétaire de la peau et donc de fait animal garou volontaire. Il est le seul à connaître et maîtriser le secret de cette peau de loup magique, puisqu'il a réussi à libérer. À libérer le jeune garçon avant qu'il ne s'éloigne de trop du village et de sa condition humaine. À le libérer par une contre-métamorphose magique. Ce cheminot a, avec sa peau de loup, un lien très puissant. Il représente donc le type d'individu qui est capable de dominer l'instinct du loup, de ne pas subir passivement le pouvoir de la peau, de maîtriser le côté sauvage. Il est donc en capacité de gérer et d'utiliser ses facultés d'être ambigu, lui permettant particulièrement de se manifester indifféremment dans son aspect animal ou dans son aspect humain. Donc, après avoir caractérisé l'animal garou et l'animal garou victime et l'animal garou volontaire, allons à la découverte du retour de l'animal garou dans le monde des hommes. Alors, le phénomène concernant le retour à la forme humaine de l'individu qui a été transformé en animal garou, et de l'ordre de la contre-métamorphose. La lecture orale alpine est riche en nombreuses histoires décrivant différentes méthodes employées pour lutter et délivrer les animaux garous, et les loups-garous en particulier. Revenons à l'histoire de l'ours, hein. Mais avant, parce que je ne vais pas vous la raconter, on va revenir sur un autre collectage qui était enregistré, celui-ci, j'ai retrouvé les traces, en 1961, une mère pour le compte du curé, on va retrouver les curés, mais que j'avais entendu sur une version très très raccourcie par un Girondin qui s'appelait Marius Raymond, que j'avais collecté en 1990. Donc, Marius Raymond était un colporteur, c'est pour ça qu'il m'avait raconté cette histoire. Et c'est une histoire de colporteur. Donc, le colporteur, c'est vraiment l'image de la Savoie avant l'industrialisation des vallées et puis l'industrie du tourisme qui s'est implantée, où les gens, les hommes, partaient l'hiver faire du colportage, c'est-à-dire être des marchands ambulants. Et comme le disait si bien mon grand-père, pendant qu'il n'était pas là, ça faisait une bouche de moins à nourrir et s'en laissait plus pour ceux qui restaient. Même s'ils revenaient, parfois, aussi riches ou bien plus pauvres que ce qu'ils étaient partis. C'était comme ça. Mais ce métier de colporteur se transmettait de génération en génération, et c'est ainsi que deux colporteurs étaient dans le Mâconnais, l'oncle avec son neveu. L'oncle apprenant les chemins, il n'y avait pas de GPS à l'époque, apprenant le nom des villages, le nom des gens aussi, là où c'est pas la peine d'aller parce qu'on va vous accueillir avec les chiens, ou là, on va vous accueillir gentiment, on va même vous offrir une assiette de soupe, quand ce n'est pas une place à l'écurie pour dormir avec les vaches de l'ouche. Et donc, ce sont ces deux colporteurs qui sont dans cette région du Mâconnais, région bien connue pour ses vignobles aujourd'hui, mais qui était à l'époque de la polyculture. C'était un hiver très froid, il faisait moins 10 et ils avaient trouvé à dormir dans l'écurie, c'est-à-dire avec les vaches, d'un militaire à la retraite. Mais un soir, alors que la lune, la pleine lune, se levait pour éclairer de sa pâle clarté une vague de saules, ils ont été réveillés par un hurlement. Un hurlement sans fin! Alors, ils ont entrebâillé la porte pour regarder ce qui s'y passait. Et là, ils ont vu un loup. Un loup qui sautait comme ça d'un toit à l'autre. Et quand il arrivait au sommet du toit pour honorer le soleil de la nuit, alors, à gorge déployée, il hurlait. Un hurlement terrible qui faisait pleurer les enfants, les femmes aussi, les hommes pestaient. Le lendemain, ils ont posé la question, mais c'est quoi cette histoire de loup qui court sur les toits? Le monde a répondu, oh, dans cette nuit, ça sera fini. On aura fini la pleine lune. Ça vient comme ça, toutes les nuits de pleine lune. Et l'ancien militaire a dit, faudra que ça cesse ces affaires, je m'en vais m'en occuper. Et la journée, il a préparé son grand fusil. Le soir, il était fin prêt. Il avait coincé son arme là, dans l'embrasure des volets. Quand la lune, la pleine lune s'est levée, quand le loup-garou est sorti de nulle part, quand il s'est mis à courir d'un toit à l'autre, et quand il est arrivé au fait du toit, pour honorer le soleil de la nuit, alors il a hurlé un hurlement puissant. Quand un coup de tonnerre, un coup de feu a déchiré l'obscurité, le loup, mortellement blessé, va rouler sur les tuiles du toit pour s'écraser au fin fond de la ruelle. Ce coup de tonnerre, ce coup de feu, ça a réveillé tout le monde. Les hommes se sont habillés, ont couru voir ce qui se passait. Ils étaient là, tous autour de la dépouille. Mais ils revenaient au chasseur, celui qu'ils avaient tué, de la voir, cette dépouille. Alors il est arrivé fier avec son grand fusil. Tout le monde l'a félicité de son exploit. Mais quand il est arrivé pour prendre le loup, la peau lui est restée entre les mains. Et là, horreur, il a découvert que sur la peau du loup, il venait de tuer sa mère, sa propre mère. Alors il a hurlé un cri de fou, a jeté la peau d'un côté et le fusil de l'autre, et s'en allait on sait où. Dans ces petits villages, comme dans les nôtres, la règle, c'est de ne pas poser la question pour savoir ce qui s'y passe. Quelque temps plus tard, il se disait que c'était M. le curé qui faisait de la physique, qui transformait cette vieille femme parce qu'elle lui avait refusé de payer l'impôt. C'était l'époque où les curés collectaient la mine. Encore un curé et la physique. Alors cette première méthode agressive, violente, expéditive, que l'on emploie aussi contre les vrais loups du reste, c'est-à-dire par l'utilisation d'une arme à feu, mais si le tireur a un profil bien particulier, c'est un ancien militaire qui a la parfaite maîtrise du maniement des armes à feu. Le loup-garou ici révélé par sa blessure mortelle et fatale, il a aussi la reconnaissance des habitants du village, de l'identité de celle qui se trouvait sous sa forme animale. La mort permettant la libération de l'individu de sa condition de soumission à l'instinct animal qui l'obligeait à se métamorphoser contre sa volonté en loup, en animal garou victime. Nous trouvons ici la thématique centrale de la métamorphose, le rapport entre la nature sauvage du loup et celle sociale et culturelle de l'être humain. Il est intéressant de retrouver encore le statut du curé du village qui possède cette capacité à transformer ses paroissiens en loup-garou victime pour régler ses comptes à des fins lucratives. Il est à souligner quand même que bien souvent, grâce à l'invention de la poudre et à sa diffusion dans le monde agricole alpestre, les manifestations fantastiques se sont atténuées jusqu'à disparaître. Donc la destruction aussi de la peau par le feu, hein, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure avec l'histoire de l'ours, est une autre solution. Mais on trouve aussi la méthode dite du don au loup, décrite par Alice et Charles Resten, dont ils ont collecté un récit à Saint-Julien-Maumier. Mais moi, je vous préfère raconter l'histoire qui m'a été confiée par Louis-Bizel Biselot à Abbeville-Vieux, parce que ce genre d'histoire, il y en a 7 versions dans la vallée. Je préfère celle de de Louise Hayward, que j'ai collecté, elle, en 1980. Or, on va retourner un peu à la frontière du monde des hommes, hein, le reste c'est l'histoire, ça passe toujours à la frontière de quelque chose. Et on va aller dans les alpages. C'est l'histoire d'un jeune berger qui gardait ses vaches tout là-haut dans les dernières prairies, là où il y a bientôt plus de cailloux que d'herbe, en attendant que l'étoile du berger se mette à briller dans le ciel. C'est le signe, hein, une fois que le soleil a basculé de côté du glacier de Saint-Sorlin, il se met à briller, ce petit astre inconnu. C'est l'heure pour redescendre. Quand est arrivé dans ses eaux un grand chien gris, mais un chien énorme. Et le chien s'est mis à courir autour de son troupeau, il en a fait une fois, deux fois, trois fois le tour. Et a disparu comme il était arrivé. Les chiens dans les villages, on les connaît, mais celui-là, ils ne le connaissaient pas. Puis un chien énorme, qu'on appellerait aujourd'hui un patou, à l'époque ça n'existait pas, c'était quelque chose d'inquiétant. Et il va tout raconter à la grand-mère. Oui, parce que dans les alpages, il y avait les grands-parents et les enfants. Les forces vives, les bras restaient pour faire les travaux en bas au village. Et la grand-mère va dire, non, de sort, à Westerkeil qui traîne par le pays, tout à fait pour. Elle était en colère. Et ben, le lendemain, la grand-mère, au lieu de faire le beurre, de faire le ménage, de faire la tome, elle n'a rien fait de tout ça, elle est allée garder les vaches. Et la journée, il ne s'est rien passé. Mais quand l'étoile du berger s'est mise à briller, est revenu ce grand chien gris, qui s'est mis à courir autour du troupeau et qui en a fait, enfin le tout. Dans sa colère, elle la coule après, mais le chien était plus leste. Et puis cette histoire de chien, ça l'inquiétait. Elle est allée raconter dans quelques chalets qu'il y avait une drôle de bête qui traînait par là, qu'il fallait se méfier. On ne garde pas les vaches à l'écurie en plein été, on avait simplement équipé les petits bergers de bons bâtons ferrés de neuf. Mais le chien faisait toujours le tour du même troupeau. Et puis un soir, ils avaient fini la traite, tous les deux, ils étaient en train de partager la soupe, quand la lune, encore elle, s'est levée. Alors, ils ont entendu un hurlement. Ça venait d'en face du bois du château. Jamais la grand-mère n'avait entendu hurler de la sorte. Alors elle a récupéré son chapelet, s'est agenouillée devant le petit crucifix, accroché à la paroi de bois, avec l'image de la Vierge Marie, le rameau de buis béni, et s'est mis à prier et prier. Et dehors dans la nuit, il s'est mis. Le petit pâtre s'endormait sur le coin de la table, il fallait qu'il rejoigne la grange, le soleil, pour y passer la nuit. Mais pour ça, il faut ouvrir la porte, affronter l'extérieur. Il avait la main sur le loquet de la porte, que la grand-mère a dit « Non, tu dormiras pas tout seul là-haut. » Tu vas dormir avec moi dans mon grand lit. Ça l'arrangeait bien, parce qu'il ne s'y voyait pas tout seul là. Mais lui, pour une fois qu'il a pu mettre les pieds dans un bon drap tout doux, il s'est endormi simplement comme une petite marmotte. La grand-mère, elle, entendant hurler, n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle a réfléchi à plein de choses, a ouvert le grand livre de la vie. Tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle aurait bien aimé faire, tout ce qu'elle aurait pu faire. Et à chaque fois, ça hurlait. Elle a accueilli les premières lueurs du jour comme un soulagement. Vite, elle était sur pied, allumer le feu, faire chauffer l'eau, faire chauffer le café, et puis, comme tous ceux de la montagne, elle est sortie sur le pas de la porte, voir le temps qu'il fait. Et ce jour-là, le ciel était brouillé de brume, rose orangé, et là, sur les crêtes de la grande cible, mais de l'autre côté, du côté du glacier, le ciel était gris, noir, menaçant. Un vent tiède est venu caresser ses joues roses. Fais pas assez frais pour que le temps tienne, qu'elle a dit. Elle était dans ses songes, qu'elle n'a pas vu arriver de derrière le chalet le grand chien gris. Les oreilles droites en l'air, le poil dressé sur les chines, la queue en trompette, des crocs menaçants, prête à dévorer une vieille grand-mère, bien sûr qu'elle avait peur. Elle s'est réfugiée dans le chalet, elle a un peu le temps d'en fermer la porte, que le chien était là sur le seuil de la porte. Elle va trouver un bout de pain qui traîne sur la table, et puis dans un geste lancé au chien et dire « Et que le bon Dieu te change de planète ?» Et le chien va saisir ce quignon de pain au vol et partir sans demander son reste. Alors elle ferme la porte à clé à tour de tour, quand un gigantesque éclair va déchirer le ciel, un puissant tonnerre se mettre à faire trembler les montagnes, un orage de mille et un démons. Mais après cet orage terrible, plus personne ne reverra le grand chien. Et ça arrangeait bien tout le monde. Mais c'était cette lointaine époque où la Savoie était un duché du royaume du Piémont-Sardaigne, et que les gens de chez nous n'avaient pas peur de traverser les frontières, de passer les cols pour aller à la foire en oison, à Besse en oison, à Bourg d'oison. Hein, c'était une occasion unique, aller échanger quelques bêtes et surtout ramener aussi des graines, hein, du blé, hein, pour mélanger les semences. Ils étaient à la foire, tout un groupe, là, quand un inconnu s'est approché d'eux. Oh, moi, de la merde, ça va. Qu'est-ce que vous avez à nous vendre ? Rien. Mais j'ai à vous parler. Puis, attendez. Et il insiste et il les entraîne à l'écart. Il y en a un qui dit, mais vous voulez nous parler ? Non, on ne vous connaît pas. Mais moi, je vous connais. Toi, Marius, t'habites à la France. Hein ? Toi, Joseph, à la sauce. Et puis, il reconnaît comme ça tout le monde. Et comment pouvez-vous nous connaître ? On ne vous a jamais vu dans le village. Je vais vous dire, cet été, il traînait un grand chien gris dans vos alpages. Ça vous dit quelque chose ? Jusqu'au jour où il est allé au petit chalet de Saute-Jardin. Et là, ta mère, Saint-Pierre, oui, ta mère, elle lui a jeté un bout de pain, elle a dit que le bon Dieu te change de planète. Et ben voilà. Alors qu'une vieille sorcière m'avait transformé en chien, sans le savoir, elle a prononcé la formule magique, sans le savoir, elle m'a délivré. Bien sûr qu'ils n'y croyaient pas. Et pourtant, le bonhomme a sorti de sa poche une boursette, un porte-monnaie, il l'a remis à Zampierre en disant, tiens, mon gars, là-dedans, il y a toute ma fortune, mais c'est pas pile pour toi. C'est pour la vieille grand-mère, celle qui tient à l'alpage. Et tu lui diras simplement, bien merci. Il a salué tout le monde, il est parti, plus personne ne le reverra. Trop d'histoire. Du reste, moi, de Zampierre me disait toujours, il ne me l'a raconté qu'une fois. Il m'a dit, c'est la vérité, c'est véridique, parce que ça s'est toujours raconté comme ça. Alors, il faut d'abord souligner que la métamorphose en chien est plus acceptable que celle en loup, surtout dans le monde rural italien. Ce qui permet à l'animal garou d'approcher plus facilement le monde des hommes, et dans le cas présent, celui des alpages et des bergers. Le ton de nourriture est plus particulièrement d'un morceau de pain, accompagné de la formule « que le bon Dieu te change de planète », sont les éléments centraux de la libération, qui va implicitement ou explicitement délivrer l'individu qui se trouvait dans sa forme animale. Et il nous faut justement remarquer que l'alimentation que l'on donne à l'animal est un morceau de pain. Le pain qui représentait l'alimentation humaine par excellence et peut être considéré avec le fromage comme le produit alimentaire le plus important de la civilisation alpestre jusqu'à la moitié du 19e siècle. 19e, époque où la pomme de terre s'implantera en alternative au blé et au seigle. Il est aussi à souligner qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, les territoires alpins étaient caractérisés par un régime alimentaire de type autarcique. Tout ce qui était consommé et nécessaire à la survie de l'espèce humaine en montagne était produit sur place en montagne. En particulier les céréales, qui représentaient une des productions les plus importantes. On cultivait essentiellement le seigle, l'orge, l'avoine, des céréales qu'ils arrivaient à faire pousser jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Mais le pain a aussi une connotation chrétienne. Il est avec le vin un symbole, le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous sommes aussi à l'opposé de l'agneau pascal, sacrifice rituel de la culture judéo-chrétienne, et que les vrais loups n'attendent pas Pâques pour dévorer mouton, brebis et agneau. Ce don s'accompagne d'un contre-don, un remerciement. Un remerciement en argent, lors de la foire. Dans d'autres histoires, c'est peut-être un contre-don maléfique. Alors, retrouvons encore mon vieil ami Géo, de Montrond qui, en 79, m'a confié une histoire qui ressemble sur certains points à celle-ci. On reviendra dessus. Et on va revenir avec les codes pour l'autre. Mais l'histoire, elle commence dans les Alpages. À Chanin, ceux qui connaissent la vallée des Arbres, et entre autres cette grande vallée de Valfroide qui remonte au pied des Alpages, Chanin, c'est le dernier alpage qui est vraiment sur les dernières pentes de la cime des Torches, qu'on appelle aussi Montagne. Et là, Jean faisait des foins en plein été avec sa femme. Il n'avait pas peur de faire des foins jusqu'à presque 2200 mètres d'altitude à l'époque. Quand un jour, sur le coup de midi, il s'arrête pour casser la croûte à l'ombre d'un rocher, parce qu'il n'y a pas d'arbre à cette altitude, et qu'apparaît dans ce coin-là un grand chien, et que le chien se met à courir à droite, à gauche. Visiblement, il va pas. Ce chien, ils ne le connaissent pas. Ils s'en inquiètent, bien sûr. Et le chien s'approche. Et quand il arrive tout près de la femme de Jean, elle prend vraiment peur. Elle prend un caillou, lui jette après, passe à faux, là. Le chien va prendre le caillou à travers les côtes, et elle est couillée un peu plus loin. Mais il va revenir de l'autre côté. Et quand Jean va croiser le regard de ce chien, lui, il va avoir pitié, trancher le quignon du pain, le jeter au chien et dire que le bon Dieu te change de plaie. Et le chien va saisir ce quignon de pain en vol et s'enfuir. Et la femme de pester, on n'a déjà pas grand-chose à manger, tu nourris les chiens des autres. Mais ce qui est fait, on ne remonte pas les pendules à l'envers. Il n'a fait que de se faire engueuler. Et quant à l'automne, après la Saint-Michel, il a pris sa balle de colporteur pour partir jusqu'à Amiens. Il est parti. Et son chemin traversait le Morvan. Morvan, qui sont de jolies petites collines boisées. C'était un pays de bûcherons, un pays dur, puisque c'est là où on coupait du bois de chauffage, entre autres, qui descendait en train par Lyon et la Seine pour chauffer Paris. Pays de bûcherons, un pays dur, mais lui, il avait ses habitudes. Quand il découvre une maison qu'il n'a jamais visitée, alors, il frappe à la porte et crie « Colporteur !» La porte s'ouvre, un monsieur dans un élégant costume le reçoit. « Ah, mais Jean, je t'attendais !»« Ah ben, ça tombe bien, j'ai du fil, des aiguilles, des petits coups de... »« Non, je sais que t'as faim !»« Oui, ça fait bien deux jours que j'ai pas fait un verre pain. Rentre, on va te servir à manger. » L'installe. Et lorsqu'il a fini ce bon repas, il regarde celui qu'il a accueilli pour lui dire « Mais monsieur, vous m'accueillez là comme un grand prince, mais je suis qu'un colporteur. » « Pourquoi ?»« Jean, bon, un coup, je vais te dire. Cet été, tu faisais des foins hein, dans tes derniers alpages en haut, dans tes montagnes perdues de la Savoie. » Comme chaque année. Et même qu'un jour s'est passé un grand chien. Et qu'à ce chien, tu lui as jeté un bout de pain et t'as dit que le bon Dieu te change de planète. C'est vrai ou pas ? Ben voilà. Alors qu'un sorcier m'avait transformé en chien, j'étais condamné à courir les montagnes et autres pays. Et toi, tu as sorti la formule magique. Tu m'as donné le petit bout de pain qui m'a délivré. Alors t'es ici chez toi. Tu y resteras tout le temps que tu voudras. Ah, si j'avais su, je t'aurais jeté le pain en entier. Mais non, il n'en fallait qu'un petit bout de la bonne formule. Et le soir, il a encore droit à un bon repas, à une chambre pour lui tout seul. C'est toujours plus confortable que de dormir sous un pont. Et il va rester quelques jours comme ça, et puis ben, il faut bien qu'il reparte, il continue sa tournée. Il partait vendre un peu la journée, dormir là. Mais un soir, il lui dit, écoute, tu m'as reçu là comme ton fils, merci, mille merci, mais demain, c'est décidé. Je reprends la route. Je reprends mon voyage, je m'en vais. Ça, Jean, je le savais. Mais tu ne vas pas partir comme ça. Et le gars va farfouiller dans un grand coffre en bois pour lui offrir une pièce de tissu, de la soie brochée. Une soie magnifique, d'un bleu merveilleux. Jamais il n'avait vu une soie de cette qualité. Jean, cette soie, elle n'est pas pour toi. Elle est pour ta femme. Oh, tu sais, les femmes de ton village, quand elles vont à toutes ces belles messes de printemps, Pâques, Ascension, Pentecôte, hein, sur leur grosse robe de laine, elles mettent un joli tablier en soie. Autour de leur taille, elles font une belle ceinture en soie. Et sur leurs épaules, elles mettent un joli châle en soie. Tu verras, pour moi, ta femme, ce sera la plus belle. Je te connais, colporteur, t'es capable de m'y vendre en chemin. Promets-moi, s'il te plaît, de n'y offrir qu'à la femme. Et il a promis. Il a mis cette pièce au fin fond de sa balle et repartit sur les chemins, monté jusqu'à bien, revenir. Quand il revient, le printemps est déjà bien entamé. Il retrouve ses montagnes, heureux comme tous les montagnards de retrouver ses montagnes. Il lui reste quoi, 1h30, 2h de chemin, même pas. Il repense à cette pièce de tissu. Ah, allez, laisse-moi voir, au moins qu'elle soit présentable, enlever la poussière du chemin. Alors, sur le chemin qui monte là-haut, il a posé sa balle, a sorti cette pièce de soie dans un bleu, beaucoup plus merveilleux sous le soleil de la Morienne que sous le brouillard du Bourbon. Hein. Bleu magnifique, qu'est-ce qu'elle va être belle! Et la fierté de l'homme d'avoir une très jolie femme, très bien habillée. Je vais voir comment elle va être belle de loin. Il déplie sa bande de soie et va l'accrocher autour d'un sapin. Il fait quelques pas en arrière. Mais qu'est-ce qu'elle va être belle! Pas une explosion. Plus de soie, le sapin coupé en deux. Ça s'ensouffle, ça fume, il ne sait plus où il en est trop. Mais je vais lui offrir quoi? Il est là, un peu perdu. Il s'assoit sur sa balle, réfléchit. Tu vois pas que j'offre cette pièce de soie à ma femme? Comme toutes les femmes, elle aurait voulu l'essayer. C'était elle qui était coupée en deux. Un sapin, c'est rien. Une femme, c'est le plus compliqué à trouver. Puis il va réfléchir, remonter toute l'histoire à l'envers. C'est vrai qu'il avait promis de ne l'offrir qu'à sa femme. Il n'offre pas. Suis un sapin. C'est vrai que lui avait jeté un bout de pain, mais elle l'avait accueilli avec un jet de pierre. Il avait voulu se venger. Et mon ami Géo de dire, c'est ça la sorcière. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit, et on ne sait jamais qui est-ce qui est sorcier. Hein? Alors une fois encore, c'est le libérateur qui raconte son aventure d'animal garou victime. Une rencontre et un récit qui, comme à chaque fois, est vécu comme un soulagement, pour ne pas dire une thérapie, par l'ex-animal garou. Mais revenons au contre-don, qui est en l'espèce une pièce de tissu, une pièce de soie, marchandise précieuse, très apprécié des colporteurs, qui est dans cette histoire une pièce de soie ensorcelée. Et pourquoi du tissu? Car comme le fil, le fuseau, la quenouille et autres métiers à tisser, ils sont tous créateurs de formes nouvelles, et donc des symboles du destin. L'araignée tissant sa toile est l'image des forces qui tissent nos destinées. Ce contre-don explosif, au caractère jetonien, est un châtiment infernal, imprévu, violent, qui finalement n'atteindra pas sa cible. C'est une fois de plus de la physique, de la magie noire, maniée cette fois-ci par l'ex-animal garou victime, qui est aussi sorcier. Avec en filigrane cette interrogation, l'état de l'animal garou victime n'est-il pas le résultat d'un règlement de compte entre sorciers? Pour conclure, les animaux garous humains, métamorphosés en loups, mais pas que, vaches, chamois, ours, chiens, ont bien souvent la malheureuse particularité d'être maléfiques, que cette métamorphose soit subie ou assumée. On parle parfois de déguisement. Dans la vallée voisine, dans les écrins, on les appelle les libéraux. ces hommes qui s'enveloppaient de peaux de bêtes pour terroriser les gens des villages voisins. Rappelons ici qu'autrefois, dans certains endroits reculés de nos vallées, vivaient des ermites n'ayant que très peu de contact avec la population, souvent vêtus de haillons et de peaux de bêtes. Leur rencontre fortuite aux heures où la pénombre chasse la lumière pouvait faire naître certaines craintes, certaines peurs. Les chasseurs aussi revêtaient des peaux des animaux exceptionnels qu'ils avaient eu l'honneur d'abattre, notamment des peaux de loup. Tous ces individus vêtus de peaux de bêtes, qui, dans quelques cas, auraient pu développer une forme de lycanthropie psychiatrique, ont fait persister la peur du loup-garou dans l'imaginaire collectif, ce qui a aussi renforcé les récits d'animaux-garous racontés lors des villes. Et puis, il y a aussi l'ambiance de la veillée, où, je l'ai vécu trois fois dans ma vie, d'autres coups tard, on était parti tellement loin à faire peur qu'on a eu droit à des phénomènes collectifs de peur. Et ça, je pense qu'à une époque où l'électricité n'était pas dans toutes les maisons et que dès qu'on sortait, on était en pleine nuit, c'était encore plus important que ce qu'on vit aujourd'hui. Du reste, je suis bien persuadé que si on arrêtait la lumière pour le monde, on reverrait ce genre de choses plus fréquemment. Ça existe. Alors, si on raconte ces récits depuis les temps les plus reculés de l'histoire, comme l'affirmait l'ethnologue folkloriste Arnold Landgenet, cité en introduction, il est intéressant d'approcher le pourquoi et le comment qui fait que ces histoires se perpétuent. Car c'est après avoir raconté encore que je suis venu à me poser cette question. Qu'est-ce qui fait que ces histoires, ces contes et légendes qui jaillissent de la nuit des temps conservent une éternelle fraîcheur, un caractère intemporel? Grande question. Si à l'origine l'histoire est pure et naturelle, avec le temps elle va vivre et s'enrichir. Jean Giono disait, quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière. Alors moi je vous propose une version très personnelle de l'exploration des éléments et mystères qui donnent vie à une histoire. Premièrement, la plus visible, le sens littéral de l'histoire. Un début, une fin, un récit qui coule comme une belle rivière. Plus sage, sont les sens allégoriques, philosophiques, du conte et des enseignements transmis dans les légendes, qui lui assurent sa stature, son feu intérieur. Plus subtil, sont les sens symboliques, déposés là par les conteurs successifs, de manière naturelle et inconsciente. Des personnes qui m'ont confié leur histoire ne savaient pas ce qu'était un symbole. Et on a vu un certain nombre de symboles, le symbole du fil, le symbole du pain, entre autres. Et pourtant, les symboles sont les reflets même de notre culture, de l'attachement de l'histoire à son territoire. Quasi invisible, l'énergie propre à chaque histoire, libre comme l'air. Cette énergie qui permet au récit de s'endormir pour mieux se réveiller dans un autre siècle et pour être parfois raconté dans une autre langue, de l'arpitan au français pour ma part, ou des contes d'Ésope, écrivain grec du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui ont été repris en partie 2300 ans plus tard, par le fameux Jean de La Fontaine. Mais revenons à cette énergie mise en mouvement par la parole, le magnétisme de la parole, donnant force à la transmission. La transmission orale, connue comme le moyen le plus ancien pour véhiculer les histoires dans le temps. Et il y a encore, sur notre planète Terre, des endroits où la transmission orale ne peut être qu'orale. L'Afrique noire, les steppes, le Grand Nord, l'Océanie. Alors, c'est bien la curieuse alchimie de ces facteurs qui fait qu'une histoire est belle, qu'elle arrive à nous bouleverser, à nous interpeller, pour venir s'enraciner dans notre mémoire, pour s'endormir un temps, pour mieux se réveiller un autre jour. Pour finir, on va finir avec l'histoire de... qui m'a été confiée par mon ami conteur Yves Bernerolle, de Valsemy, qui m'a donné du reste cette envie de raconter des histoires, à réveiller cette passion que j'avais écoutée comme j'avais... En fait, Bernerolle, quand il parlait, il avait la même intonation, les mêmes expressions que mon grand-père quand il me racontait des histoires. Voilà. Et c'est marrant parce qu'un jour, il m'a raconté cette histoire, et moi, j'avais collecté une histoire du même style auprès de François de Cocon, qui était un bon vieux qui vivait à Abbier, tout près de cette fameuse pierre à cupules. Donc on va... Ce qui est intéressant, c'est que on va faire vraiment un grand voyage dans le temps. 7-8 000 ans, par rapport à aujourd'hui, où les premiers hommes, les Homo alpinus, vivaient là, et se protégeaient comme ils pouvaient, et quand ils trouvaient un lieu plus ou moins habité, eh bien c'est là qu'ils s'installaient. Et c'est comme ça qu'ils se sont installés sur le plateau des Alpes. Hein. Finalement, les grandes voies de pénétration de l'époque, c'était simplement le lit des rivières. Et les gens passaient, hein. Il n'y a pas d'autre chemin. Et quand on arrive, quand on déboule la vallée de la Maurienne et qu'on voit, on n'imagine pas qu'il y a un magnifique plateau. Ce plateau était naturellement protégé, hein, par des forêts, par des falaises. C'est ainsi que les gens s'étaient installés et qu'ils ont creusé, mis en place une pierre, cette fabuleuse pierre à cupules, une pierre beaucoup mieux que moi, qui est orientée plein ouest, donc on devait vénérer un dieu solaire très important, hein, avec sept réseaux de cupules. Mais alors, dans ces villages anciens, on était aussi, dans ces tribus, on était encore très proche de la nature, et que ces hommes-là, étaient capables de ressentir des choses qu'on ne ressent pas. Ils connaissaient leur monde mieux que personne. Et un soir, ils ont entendu un hurlement. Un hurlement qui s'est mis à résonner comme ça dans les montagnes. Ils étaient là, vraisemblablement, tous autour du feu, terrorisés par ce hurlement qu'ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient le chant des loups. Le chant des loups, quand ils partent à la chasse, cet hurlement terrible était quelque chose d'étrange. Il s'est répété plusieurs fois, le conseil des anciens a décidé, il fallait aller voir. On a réuni les meilleurs chasseurs, à leur tête était Voni, le plus jeune, le plus courageux d'entre eux. Quand Voni est rentré sous sa hutte, la jeune femme, Purita, lui a dit non, il ne va pas. Purita était une jeune femme qui, lors d'une lointaine chasse, il l'avait surprise en train de cueillir quelques baies. Alors il l'avait capturée, fait sienne, elle s'était laissée faire. Et lui, content d'avoir une nouvelle femme, dans sa tribu l'a ramenée. Non, il n'y va pas! Elle a tout fait pour le décourager. Mais il avait promis. Et le lendemain, il est parti. Ils ont entendu ce hurlement, se sont approchés. Au cœur de la nuit, sur un craie déboisé, il y avait une meute de loups. Et au sommet, sur un rocher, une louve blanche, qui hurlait à la nuit. Un hurlement terrible. Et d'un seul coup, elle est partie, entraînant avec elle les autres loups à la chasse. Alors ils l'ont suivi des jours et des jours pour revenir au même endroit. Et là, contrairement, ils se sont approchés. Il a pris son arc, sa plus belle flèche. Et alors qu'il hurlait, il a lâché la flèche qui a fendu l'air et est venue lui transpercer le cœur. Et la louve s'est arrêtée d'hurler et les loups se sont mis à pleurer. Alors ils se sont approchés, les loups se sont enfuis. Mais lorsqu'il est arrivé, il a enlevé la peau, il a regardé ses yeux, il venait de tuer Purita. Purita l'a gentiment regardé, lui dit merci, tu Tu m'as délivré d'un étrange démon qui me transformait en loup. Alors il a regardé la lune. Il vit aussi, c'est mieux, lui.